Et lorsque cette explosion s'est produite, est-ce que vous en avez un clair souvenir de votre blessure du moment?
Oh, très bien, très bien. Très bien, je suis tombé, bien entendu. On m'a chargé sur un brancard et on m'a amené en arrière des pièces. Et je suis resté là assez longtemps jusqu'à ce que le bombardement se soit calmé et pour qu'on m'emmène un peu plus loin. Et nous sommes restés 2 jours dans une ferme abritée, attendant qu'un train vienne pour pouvoir nous emmener en arrière. Et il est arrivé un train qui amenait du matériel d'artillerie. On a très rapidement nettoyé les wagons où étaient installés les chevaux et le matériel, et nous sommes partis là-dessus. Et pendant 2 jours, nous avons cherché un hôpital qui veuille bien nous accueillir.
Mais vous étiez tout de même pansé.
Oh, j'étais pansé.
Un premier pansement.
Pansé avec mon pansement individuel, je n'avais rien d'autre. Je n'avais jamais été pansé par des professionnels de la médecine. Oui. Tous les militaires avaient un pansement individuel dans leur poche, et c'est avec cet pansement individuel qu'on m'a fait un pansement. Mais je sentais très bien que ma blessure s'infectait. Alors nous sommes allés au Havre, nous sommes allés à Dieppe, nous sommes allés dans différentes villes, et partout où nous arrivions, les hôpitaux étaient pleins et nous repartions plus loin. Et nous sommes arrivés à Chartres, et à Chartres, le train s'est arrêté en gare de Chartres, et on a descendu les plus grands malades. Et moi j'avais ma blessure s'infectait, je le sentais très bien. Je suis allé aux toilettes pendant qu'on enlevait les blessés. J'ai laissé partir mon train et on m'a emmené à l'hôtel Dieu de Chartres avec les plus grands blessés. Et là, on m'a pansé. Et alors, ma blessure était très, très infectée. Et j'ai eu une chance inouïe, car j'étais sur la table d'opération. On était en train de me raser le bras pendant que le chirurgien se lavait les mains pour m'amputer l'avant-bras. Le chirurgien s'appelait le docteur Allôme, je me rappelle très bien. Et le maire de Chartres, c'était un médecin, c'était le frère du général Monory. Il s'appelait le docteur Monory. Et pendant que le médecin se lavait les mains et qu'on me rasait le bras, il est rentré dans la salle d'opération et il venait d'amputer un de ses neveux à Bourges. Ça, il y a une raison pour que je vous donne ce détail. Et alors il est allé trouver le docteur Allôme, je les ai entendus bavarder un petit peu, qu'est-ce qui est arrivé, le docteur Allôme lui a dit, mais l'hôpital est plein, il est arrivé un train de blessés, on nous a amené les plus grands blessés, et nous n'avons que de grands blessés. Puis alors il lui dit à un moment donné, à celui-là, qu'est-ce que tu vas lui faire? Alors il est venu vers moi, il lui a dit, ben voilà, je vais l'amputer. Et le docteur Monory m'a pris le bras, m'a tâté, il lui a dit, moi je ne l'amputerai pas. Il lui dit, mais si je ne l'ampute pas aujourd'hui, demain il aura de la gangrène, et au lieu de lui laisser l'articulation du coude, je serai obligé de désarticuler. Et alors le docteur Monory lui dit, mais c'est à nous d'empêcher la gangrène, essayons. Et alors ils ont fait venir une sorte de plat étroit, vous savez, comme les plats dans lesquels on fait cuire des poissons. Ils m'ont mis le bras, ils m'ont fait un tas de trous. Il y a d'ailleurs quelques traces encore, il y a quelques petites blessures. Ils m'ont fait il y a des petites traces. Ils m'ont fait un tas de trous dans le bras qui étaient très enflés et qui sentaient vraiment mauvais. Et puis, ils ont pressé des deux côtés pour faire tomber le pus. Et quand ils ont eu bien vidé le bras de pus, ils m'ont vidé une bouteille d'eau oxygénée sur le bras. Puis on m'a fait un gros pansement et on m'a emmené dans mon lit. 2 heures après, le pansement était traversé. On m'a ramené à la salle d'opération, on m'a refait un pansement. Et le docteur Monory a dit, écoute mon petit gars, je crois que tu garderas ton bras. Et le lendemain, on m'a repensé, il m'a dit, bien tu garderas ton bras. J'ai une chance inouïe, car ils auraient crevé en revenant de Bourges, ou ils auraient trouvé un passage à niveau fermé, ils auraient perdu un quart d'heure, j'ai été amputé.
Donc c'est à cette rencontre exceptionnelle que vous devez d'avoir conservé votre bras.
Un bras qui m'a quand même permis de me servir, difficilement, mais de me servir quand même.
Bien sûr. Je suppose que les chirurgiens devaient être débordés dans ces premiers temps.
Et puis ils n'étaient pas habitués aux blessures de guerre, c'était le début de la guerre, ils voyaient des blessures tout à fait anormales. Et alors j'y suis resté un mois à Chartres, et après je suis parti pour Lyon. Et à Lyon j'ai été hospitalisé à l'hôpital Desgenettes, qui était un hôpital militaire, où il y avait des chirurgiens de plus grande capacité opératoire. Et alors là, on m'a fait des greffes, on m'a fait des sutures nerveuses, rien n'a pris. Et je suis resté 2 ans dans les différents hôpitaux à Lyon.
Mais toujours à Lyon, donc.
Toujours à Lyon.
Vous êtes arrivé à Lyon à la...
Je suis arrivé à Lyon au début de novembre, début 14. Novembre 14. 14 oui.
Donc, vous étiez passé d'hôpital en hôpital sans être accepté, puis un mois à Chartres et ensuite Lyon.
C'est ça. Et alors, je suis resté à l'hôpital Desgenettes à Lyon, qui était l'hôpital militaire du temps de paix. Et puis là, on m'a opéré plusieurs fois. Le chirurgien qui m'a opéré était un chirurgien très réputé de Lyon, qui m'a opéré à plusieurs reprises. Puis on m'a envoyé dans un hôpital auxiliaire, en convalescence, mais enfin en attendant de me réopérer. Alors j'ai fait plusieurs hôpitaux. J'ai fait l'hôpital Gerson à Lyon, j'ai fait l'hôpital Jésus-Marie à Fourvière aussi.
Oui. Et quelle était l'atmosphère dans ces hôpitaux en
tant que... Oh, excellente. Il y avait de grands blessés, des blessés moins graves. Puis j'en ai connu tant. Dans l'hôpital où j'étais à Chartres, il y avait dans la même chambre que moi un garçon de Saint-Galmier qui avait à la cuisse la blessure que j'avais au bras. Eh bien, lui a pu repartir. Il est reparti au front, il y a été tué.
Donc, d'une certaine manière, certaines blessures évitaient de se faire tuer.
C'est mon cas.
On m'a décrit aussi, parmi ceux qui étaient dans les hôpitaux, le dévouement exceptionnel de dames de la ville, souvent, qui étaient...
Ah bien, dans les hôpitaux auxiliaires et même à Desgenettes, il y avait des infirmières militaires, mais qui étaient assistées de dames de la ville. Et à Desgenettes, il y avait une infirmière militaire qui était gradée, qui avait un grade d'officier, mais qui était assistée de deux dames de la ville qui les aidaient pour prendre des températures, pour les piqûres, enfin pour les soins donnés, pour faire des pansements.
Oui. Tous les blessés que j'ai vus décrivent comme une sorte de paradis ces hôpitaux de l'arrière où ils pouvaient enfin échapper au
froid. Bien sûr. C'était le paradis. On disait, enfin on peut dormir, enfin on peut respirer, enfin on ne recevra pas d'obus.
Alors justement, ça nous ramène au front, cette atmosphère de tension permanente et de bombardement permanent, comment est-ce que c'était vivable?
On avait 20 ans, on avait 23 ans, on était jeunes, on avait de l'enthousiasme, c'était vivable. Je ne voyais pas, on n'entendait pas de ces réflexions que l'on entendrait aujourd'hui et que l'on entend encore quelquefois. On en a marre, non, on ne disait pas ça. On se préoccupait de savoir comment on allait, où on allait s'arrêter, où on allait se battre, où on allait recommencer.
Vous étiez aussi accaparé par des questions matérielles, de nourriture, de...
Oh non, on ne s'en préoccupait pas de ça. Moi, je crois, les derniers jours, je crois que je suis resté une journée sans manger, mais on ne grognait pas.
Oui. Les gens étaient accoutumés à une vie très dure, il faut dire, avant 14. Ils
n'étaient pas habitués au bien-être d'aujourd'hui, sûrement. Oui. Et puis partout où on allait... Moi, comme j'étais sous-officier, quand on s'arrêtait dans des villages, il m'arrivait d'être logé chez des particuliers. Et bien là, on nous donnait à manger.
Les soldats avaient donc de bonnes relations avec les civils. Oh,
les civils étaient très très accueillants. Oui. D'ailleurs, je vous ai dit, j'ai débarqué à Longo, oui. Et nous avons reculé après jusqu'au Bourget. Eh bien, partout où nous nous arrêtions, nous trouvions des gens qui s'en allaient aussi pour éviter les Allemands.
Oui. Et alors, quel était le moral des troupes pendant cette période de retraite?
Très bon, très bon. Le moral était bon. Et quand... arrivé au Bourget, nous nous sommes arrêtés et qu'on nous a lu l'ordre du jour de Foch, où cet ordre du jour sensationnel, quand on dit l'or est arrivé de ne plus regarder en arrière, etc. Et on doit se faire tuer sur place plutôt que de reculer. Tout le monde a dit, ah ben enfin, enfin. Non, moi je me souviens avec quelle joie on a recommencé la bataille de la Marne.
C'est ça, vous attendiez cette détermination.
C'est ça. On était très affligés de reculer, comme nous le faisions depuis 3 semaines.
Et tout le monde espérait cette contre-attaque.
Je ne sais pas si tout le monde l'espérait, mais en fait, dans mon régiment, autour de moi, les gens l'espéraient. Quand on nous a lu cet ordre du jour, on a dit « enfin ».
Donc les ordres du jour vous étaient communiqués par qui ?
Ah bien, par le capitaine de la batterie.
Et vous, votre fonction consistait à le relayer auprès des hommes ?
Ah non, on nous rassemblait puis on nous le lisait. Cet ordre du jour, on nous l'a lu, la batterie rassemblée.
C'est ça, donc les officiers et la troupe aussi ?
Oui, oui, oui. Les officiers étaient extrêmement bien.
Souvent, les gens, effectivement, que je vois, sont émus jusqu'aux larmes en évoquant des officiers qu'ils ont connus. Et ce qui me frappe, c'est que souvent, il y a du tutoiement, il y a des appellations « mon enfant qui ne sont pas l'image qu'on se fait de la hiérarchie militaire.
Il n'y avait plus de hiérarchie à la guerre. C'était bien le capitaine, c'était bien le lieutenant, c'était bien l'adjudant. Mais on était là tous ensemble, courant les mêmes dangers, exposés aux mêmes risques.
Il y avait la hiérarchie du courage, tout de même.
Ouf, tout le monde se montrait très courageux. Oui. Je n'ai jamais vu, moi, pour des missions dangereuses, désigner d'office un homme. On demandait des volontaires.
Oui. Je voulais vous poser cette question parce qu'elle m'a frappé dans votre livre avec André Veil, qu'il n'y a jamais eu donc de gens à désigner d'office. Or, après, il y en a eu, d'après les autres témoignages que j'ai recueillis. Est-ce que vous pensez que le moral du combattant s'est affaibli ? Oh,
sûrement, avec la durée de la guerre, avec les fatigues, avec les pertes que les régiments ont subies, il y a eu un déclin du moral, sûrement.
Et comment s'était fait le mélange de toutes ces classes, la classe 11, la 12, la 13, la 14 ? Donc des gens expérimentés déjà comme vous ?
Moi, j'étais d'un régiment de couverture, oui. Et nous sommes partis sans attendre des réservistes.
Oui. Mais dans les régiments, concrètement, les gens qui étaient de classes différentes, comment se mélangeaient-ils ?
Oh,
très bien.
Sans problème. Oui. Sans problème. Quand j'ai eu terminé un an de service militaire, les gens de la classe 10 sont partis, sont arrivés ceux de la classe 12, et en un mois, ils étaient complètement assimilés.
Parce qu'on m'a souvent dit, mais c'était plus tard dans la guerre, que les vieux briscards de la 14, 15, 16, évidemment, étaient expérimentés par rapport à ceux qui arrivaient en
18. Sûr, bien sûr, bien sûr.
Ils avaient une sorte de paternalisme, de bonne loi d'ailleurs.
Sûrement, sûrement. Oui. Il y avait une très bonne camaraderie. Oui. Nous ne faisions aucune espèce de différence entre les gens de la classe 12 et les gens de la classe 11. Mm-hmm. C'était les bleus, quoi, pendant deux mois de leur arrivée, et puis après, c'était Tartampion, Durand et Dupont.
C'est ça. Et comment se faisait le mélange entre les soldats issus de régions différentes et qui ne parlaient peut-être pas forcément français très châtié ?
Dans mon régiment, il y avait beaucoup de soldats recrutés dans l'Aveyron, qui avaient un accent terrible, et certains arrivaient presque illettrés. Moi, pendant ma première année de service militaire, j'ai fait le cours aux illettrés. Il y avait des illettrés qui arrivaient au régiment, des gens qui ne savaient pas lire et écrire. J'ai fait les cours aux illettrés.
Et tous ces gens de toute région française se fondaient ensemble ?
Oh, très bien.
Très bien.
Très, très bien. Il y avait des gens d'un peu de tous les régiments, puis à la mobilisation, il n'y avait plus de recrutement organisé, il arrivait des gens en remplacement qui arrivaient dans la batterie, qui remplaçaient ceux qui avaient été tués ou blessés.
Et comment l'intendance suivait-elle pendant ce mois de combat ?
Elle suivait très mal. Elle suivait très mal, je vous dis. Je crois que je suis resté une journée entière sans manger. On ne s'en plaignait pas trop. Puis alors on couchait dehors, on s'arrêtait la nuit. Moi j'ai perdu mon cheval, hein, j'ai eu une nuit. Je dormais avec je le tenais par la bride, et je ne sais pas ce qu'il a fait. Le lendemain matin, j'ai plus trouvé en me réveillant, j'ai plus trouvé de cheval. Et puis 2 heures après, nous avons croisé une autre batterie de mon régiment qui nous a dit, mais là, les gars, nous avons un cheval de chez vous, et c'était le mien. Je l'ai récupéré comme ça.
Il y avait une affection. Là aussi, j'ai cru deviner que, entre les gens qui avaient des chevaux et eux, il y avait une sorte de véritable affection qui se créait.
Ah, pour le cheval ? Oui. C'était un ami, mon cheval. Oui.
Comment s'appelait? Vous lui avez donné un nom?
Oh ben, ils avaient tous des noms. Ouais. Tous des noms. Quand j'étais à la 6e batterie comme brigadier, j'avais un cheval, une jument qui était très difficile, qui s'appelait Finandine. Et mon, comme sous-officier à la 4e batterie, il s'appelait Robert.
J'ai même eu des gens qui m'ont dit un peu plus tard, j'avais faim, j'avais soif, mais c'est surtout mon cheval qui me préoccupait.
Oui, 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 moi, j'ai toujours porté du pain et du sucre à mon cheval. Ouais.
Et il y a eu beaucoup de chevaux sacrifiés.
Bien sûr.
Dans cet épisode de guerre de 14. Et alors, donc, pendant votre séjour à l'hôpital, comment vous arrivaient les échos de la guerre? Par les journaux?
Oh, on n'avait point de journaux. Les officiers nous donnaient quelques renseignements, mais très très vagues. D'ailleurs, le déplacement était permanent. Nous sommes arrêtés pour la bataille de la Barne. Là où j'ai été blessé, nous sommes restés 3 jours au même endroit, mais le reste du temps, nous nous déplacions tout le temps.
C'était donc dans les premiers jours de la contre-offensive de la Barne.
Oui, oui, bien sûr, le 9 septembre.
Et donc vous aviez reflué jusqu'au Bourget et vous étiez avancé jusqu'à quel point?
Jusqu'à Nanteuil, entre Nanteuil et entre Nanteuil-Lauaudouin. Oui.
Donc à marche forcée, vous avanciez tout de même pendant la nuit, pendant le jour?
Sans arrêt, il n'y avait ni jour ni nuit pendant la guerre.
Et comment pouvait-on tenir?
On tenait, on était crâne claqué, crevé, mais on tenait.
On arrivait à tenir?
Oui, on tenait très bien.
Et quelle était l'opinion des hommes? Est-ce qu'à l'époque, déjà, on disait Boche? Parce que j'ai été frappé par le fait...
Oui, oui, on disait les Boches, oui.
On disait les Boches. Oui. Dès le début de la guerre?
Oui, oui. Dès le début de la guerre.
Et savez-vous d'où vient ce nom?
Je crois que l'allemand, on disait allemand, Al-Bosch, c'était pour une terminaison allemande. Oui. Mais je me souviens, moi... Les derniers mois avant la guerre, nous étions à Besançon et nous avions souvent on voyait souvent des groupes d'Allemands, d'Alsaciens et d'Allemands, pas en uniforme, mais qui venaient en déplacement à Besançon. Moi, je me souviens avoir vu des groupes, on disait, tiens, ça, ce sont des Allemands.